Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Alors comme que chaque dimanche à 12h15, on entendra la Madeleine 2. Aujourd'hui, Natacha Triou nous fera découvrir le souvenir gustatif de la metteur en scène Masha Makeyev, qui dirige le Théâtre de la Criée à Marseille. Et voilà qui tombe bien, puisque nous y sommes à Marseille, à l'occasion de MPG 2019, en français Marseille-Provence-Gastronomie, dont les principaux événements commencent ce mois-ci. Stéphanie Villeneuve, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous avez fait le voyage avec nous, ça tombe bien parce que vous connaissez Marseille comme votre poche, cette ville n'a plus de secret pour vous. Alors vous êtes allé vous balader et au hasard de vos flâneries, vous avez laissé traîner le micro ?
Non, alors j'ai pas tout à fait laissé traîner mon micro Caroline, mais je vous emmène faire une petite promenade culinaire au cœur de Marseille, dans le quartier de Noailles, qui est un quartier métissé. Assez représentatif de ce qu'est la cuisine marseillaise, extrêmement métissée aussi. Et sur les conseils de Pierre Hiverna, notre chroniqueur hebdomadaire, j'ai rencontré Christian Key, un féru de poisson qui m'a emmené sur le marché au Vieux-Port. Julia Samut, qui tient l'épicerie Idéale, toujours dans ce quartier. Et puis, j'ai fait un petit tour aussi dans une épicerie avec plein d'épices qui viennent de partout, qui s'appelle Tamki, où j'ai rencontré de vrais Marseillais.
Ça te fait 11,30€, ma chérie.
L'alimentation marseillaise, c'est le grand mix. Marseille ne serait pas Marseille si on n'avait pas toute cette mixité. Dieu soit loué.
Ah, la cuisine marseillaise, elle est bonne, mais il faut prendre du temps, que ce soit pour une bouillabaisse ou que ce soit pour des gras doubles. Il faut prendre le temps. La cuisine, il faut avoir le temps et avoir l'amour de cuisiner. Qu'est-ce que la cuisine, c'est pour faire plaisir aux autres.
Donc la bouillabaisse, moi je la détourne en fait. Donc je ne veux pas l'appeler une bouillabaisse. Par contre, j'utilise tous les ingrédients de la pêche d'ici. Donc c'est vraiment quelque chose qui émane du goût de Marseille à travers entre la mer et la colline en fait. Donc vous avez le safran qui vient des collines, l'ail, les oignons, etc. Et puis vous avez qui rencontre la mer avec les petits poissons de roche.
On est tous un peu asiatiques, orientaux, africains ici. C'est évident. C'est sûr, avec un peu de napolitain, un peu de corse. Ça, c'est le vrai Marseille, ça.
Dans certains pays, dans les pays du Moyen-Orient, avec le pois chiche, on fait le houmous avec la terrina. Délicieux. Et ici, bon, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font la panisse. Et les gens qui sont un peu spécialistes et qui aiment manger ça, ils vont à l'Estac, ce fameux village marseillais. C'est délicieux.
Et la brousse du Rhum, ben, c'est une brousse faite à base de lait de chèvre du Rhum, qui sont des chèvres particulièrement sexy, avec des cornes africaines sublimissimes. Et cette brousse-là, ouais, c'est vrai que c'est une estampille marseillaise, on va dire des Bouches du Rhône plutôt. Et ça se mange avec du miel ou ça se mange avec de l'huile d'olive et un coup de poivre. Ça, c'est Marseille aussi, ouais.
Merci pour cette entrée en matière dans Marseille, Stéphanie Villeneuve. Là, nous sommes attablés dans un restaurant, et pas des moindres, puisque nous sommes en compagnie du chef le plus en vue du moment ici à Marseille. On dit même qu'il a réveillé la scène culinaire marseillaise avec ses subtils chocs de texture et de goût et ses kaléidoscopes d'arômes. Il peut en tout cas se targuer d'avoir obtenu 2 étoiles au guide Michelin et d'avoir été récompensé du prix de cuisinier de l'année par le Goemio. Alexandre Madia, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous recevoir dans votre restaurant. C'est ça Marseille, ce qu'on a entendu là, le grand mix.
C'est ça Marseille, c'est aussi le grand mix, c'est aussi cette grande culture, c'est aussi cette grande mixité, cette grande transversalité, je dirais, avec tout le pourtour méditerranéen qui est là et qui apporte une énergie assez folle et incroyable.
Vous avez grandi au Congo, où vous êtes né, hein, au Congo-Brazzaville, ouais. à Pointe-Noire. Vous êtes venu à Marseille parce que ça vous rappelait, d'une certaine façon, ce que vous aviez vécu enfant, ou c'est un hasard absolu ?
Alors, un hasard, oui, oui et non, je dirais un hasard fort, parce que moi je suis arrivé au départ fan d'architecture, d'art contemporain, j'arrivais d'Espagne, donc je suis arrivé pour travailler dans Le Corbusier, un monument incroyable, en marge dans son agglomération, qui présente une énergie folle, pour pouvoir... écrire, je dirais, un brouillon culinaire et pour pouvoir exister sans avoir le poids de la tradition et les carcans. Donc pour moi, c'était très très fort. Et puis j'ai rencontré ma femme, tout simplement. Donc c'est pour ça que je suis là aussi. C'est pour ça que je suis resté à la suite du départ de Corbusier. Donc très content d'être là dans son, quand je dis tout simplement ce restaurant de quartier, parce que cette petite unité à taille humaine
dans le 8e arrondissement de Marseille
compte énormément pour moi.
On est là pour vous rencontrer, Alexandre Mazzia. On est là aussi, je le disais, parce que c'est l'année de la gastronomie à Marseille, ouais. Provence. Ça vous surprend que ce soit l'année de la gastronomie ici, ou bien non, on est en pleine effervescence gastronomique, ça bouge, il y a plein de nouveautés à Marseille?
Non, je pense que ça ne me surprend pas. Je pense qu'il y a vraiment une effervescence et puis il y a vraiment une énergie qui émane de Marseille. Beaucoup de lieux incroyables qui fleurissent, énormément de bistrots, énormément de cuisines très personnelles avec des concepts assez incroyables qui s'installent dans les quartiers un peu fous, comme à Noël, comme tout à l'heure, vous avez pu souligner avec Julia, avec aussi des lieux comme la Mercerie, voilà. Et des lieux qui sont magiques, des lieux qui sont vivants. Et je pense que ça fait partie évidemment d'une visibilité, mais aussi d'une, je parle toujours d'énergie, mais d'un faisceau lumineux sur cette ville qui pour moi devient bientôt la Barcelone, Barcelone dans quelques années, je pense. Et je l'espère en tout cas.
Oui, en tous les cas, effectivement, ouais. Dans votre bouche, vous avez l'air satisfait, ravi que ce soit la
Barcelone. Bien sûr.
En termes gastronomiques, ça dit quelque chose.
C'est important,
ça.
Ouais, bien sûr, c'est fort. Et puis on a quand même des figures de proue comme Gérald Passella qui sont depuis des années.
Trois étoiles, le petit Nice,
ouais, avec une écriture culinaire incroyable. Puis avec aussi une association Grand Méditerranée avec une unité forte de chefs emblématiques de la ville et de la région qui est là, qui émane et qui pousse petit à petit et qui montre voilà qu'on est là. Et puis surtout, aujourd'hui, il y a une légitimité par rapport à la cuisine qui est proposée. Il y a un vivier énorme et incroyable de maraîchers, producteurs et puis des joailliers dans leur domaine d'activité qui fait qu'on devient, on est le jardin ou le potager de la France. Donc c'est normal que nous soyons MPG 2019.
Et c'est bien pour vous, Alexandre Mazzia, parce que vous revendiquez, je crois, une cuisine locavore, ancrée dans le territoire. Donc les fournisseurs sont extrêmement importants pour vous. Avec qui travaillez-vous à Marseille?
Alors moi, j'ai des personnes qui sont incroyables, qui sont Jean-Baptiste Enfonceau, qui est un maraîcher en permaculture. Donc Jean-Baptiste qui fait partie de l'histoire aussi du restaurant, de cette colonne vertébrale. Comme Fabien, qui est, sont deux pêcheurs avec une société qui s'appelle Ikejime, c'est deux plus jeunes pêcheurs de Marseille qui sont dans le port de Morgiou, dans la calanque de Morgiou, voilà, qui pêchent au filet, qui chaque matin sortent leurs poissons. Il y a une espèce de moment solennel à la sortie de ce poisson. Ils font attention à ce qu'ils font, comment ils le sortent, ils le remettent. S'ils sont trop petits, méticuleusement à la mer. Pareil pour les langoustes. Enfin, c'est vraiment des gens incroyables parce qu'aujourd'hui, il faut avoir du courage pour entreprendre aujourd'hui, surtout en tant que pêcheur dans la région. Donc, on essaie de les aider à notre façon.
En cuisinant notamment beaucoup de poissons.
Et voilà, bon, en même temps, on est gâtés. On a vraiment des gens fantastiques. Après, on a des gens un peu plus loin, voilà, comme Sylvain Erhardt avec ses asperges folles qui sont là. On a Xavier Lazare, aussi un producteur d'huile d'olive, voilà, où on peut chercher des aglandos, d'eau, des typicités dans l'huile d'olive qui nous comptent avec moins d'amertume, plus de côté métallique, un côté un peu soyeux. Des fois, on va avoir une teinte très incisive avec une acidité naturelle qui, moi, me plaît et me parle.
Alors, il y a vos fournisseurs, Alexandre Mazzia, et puis il y a l'équipe au quotidien avec qui vous travaillez dans ce restaurant, qui est un petit restaurant en termes de couverts. C'est 22 couverts. Et vous avez presque autant de personnes qui travaillent dans la cuisine. Elle est ouverte, on la voit. Le décor, c'est béton ciré sur les murs, c'est bois, parquet de chêne, bois blond.
Tout est en chêne, oui.
Et puis du liège, comme décoration, hein. C'est un décor végétal.
C'est un décor végétal, mais surtout qui montre le côté organique, comme tout ce qui est ici, comme ce mur. Qui est assez brute, mais qui montre aussi que la matière brute peut être aussi élégante, peut être fine et délicate. Et il y a toujours cette volonté de dire que nous, on travaille la matière, on essaie de la dompter, donc ça me parle énormément. Mon père était négociant en bois, donc les gens pensaient que j'étais un peu nordique au départ, donc j'ai dit, ben non, malheureusement, moi j'ai vécu dans le bois pratiquement toute ma vie, donc il était normal d'avoir cette chaleur presque charnelle un peu partout. Vous avez le métal aussi, le côté un peu métal, qui pour moi aussi...
C'est épuré, c'est sobre. Bah, tout est fait pour profiter de ce qu'on a ensuite dans l'assiette.
On l'essaye, mais surtout, c'était surtout pour pas avoir trop de choses autour de soi qui peuvent vous préoccuper l'esprit. Moi, s'il y a trop de choses...
Là, c'est pour pouvoir se concentrer.
Voilà, parce qu'après, j'ai trop de choses dans la tête et après, c'est compliqué.
Alors, un père négociant en bois, un grand-père pêcheur. Et vous, basketteur professionnel avant de devenir cuisinier professionnel.
Ouais, c'est surtout un cuisinier qui a fait du basket.
Ah, mais c'est ça la question que je voulais vous poser. C'est d'abord la cuisine pour vous.
C'est d'abord la cuisine pour moi. Moi, il y a eu un moment crucial où j'ai fait du basket, évidemment. Je me débrouillais. Et puis, à un moment donné, on m'a proposé d'aller, je me rappelle, en université, soit Villanova Basketball ou soit, je me rappellerai toujours, Fauchon, Place de la Madeleine à l'époque, où c'était Pierre Ramé qui officiait là-bas. Et ben moi j'ai choisi Fauchon, pas de la Madeleine. Donc si vous voulez, le choix a été vite fait. Et après, pendant mon tour de France, j'ai eu la chance d'avoir des chefs qui m'ont accepté dans leurs établissements où je jouais dans les clubs avoisinants, qui me permettait de rejoindre les deux bouts.
De joindre les deux bouts.
Alors c'était une activité, on va dire, pleine, parce que quand je regarde avec le recul, je me suis dit, mais alors Alexandre, t'étais sacrément en forme, peut-être graisse par rapport à maintenant. C'est ce qui m'a permis aussi, si vous voulez, une espèce de thérapie qui m'a permis d'éviter d'être noyé ou de, à un moment donné, comme on dit, des fois on peut se perdre dans la cuisine, d'avoir cette soupape sans vraiment avoir le poids toujours au quotidien de ce travail de matière. Il y avait toujours cet exutoire physique qui me permet d'avancer.
Et puis on dit qu'il y a quand même des liens entre le sport de haut niveau et la cuisine, peut-être en termes d'exigence, de discipline, de dépassement de soi.
Déjà, il y a la rigueur, l'assiduité qui est forcément là. Vous avez bien évidemment la répétition du geste qui peut être assimilée à la mise en place. Elle est indissociable de ce que l'on fait. Et après, je dirais, il y a le match, le service, où là, ça demande un effort de concentration, un effort d'éveil. Et là, on est dans le dépassement de soi-même, mais jamais au détriment des autres. C'est-à-dire que c'est vraiment un combat contre soi-même. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Il faut prendre soin des autres. Et après, la force, c'est vraiment de tirer la force des uns et des autres pour faire qu'une unité et ne pas justement aller chercher toujours à changer les personnes qui sont autour de vous en leur faisant faire des choses qu'ils ne savent pas faire. Ça, c'est vraiment important. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'on marque une équipe. Justement, hier, par exemple, j'avais l'entraîneur de l'équipe de France, Alain Weiss, qui était là, qui est venu manger, fêter son anniversaire de mariage. Alors, c'était fou parce qu'on parlait des vieilles années avec l'équipe de France de basket qui avait été vice-champion olympique à l'époque contre les Américains. Et on parlait de ça, justement, de ces points d'ancrage et ces... On va dire, et c'est
point commun,
et qui montre une exigence, voilà, l'exigence de la main, l'exigence aussi, il y a aussi aiguiser l'œil. J'étais toujours à mes collaborateurs, aiguiser l'œil, goûter, surtout n'arrêtez pas, car il faut vraiment observer la matière, comment elle change. On peut très bien voir si une matière est trop salée ou une vibre est trop salée, rien qu'à sa picturalité. Donc ça veut dire, faut aiguiser l'œil. Je pense que ça, pour moi, c'est important.
Bon, à côté de tout ce qui est aiguisé, il y a l'exigence, Alexandre Mazia, il y a le plaisir, il y a l'amour de la cuisine, il y a ce que vous donnez, ce que vous offrez à vos clients. Venir manger chez Alexandre Mazia, on dit, et je suis là pour en témoigner, que c'est une expérience atypique. Vous proposez des voyages, plusieurs voyages, les clients peuvent choisir, mais on ne découvre les plats qu'une fois servis. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le menu avant, et vous proposez des séquences de 3 ou 4 plats. On les mange dans un ordre particulier. Tout est dans le goût. C'est-à-dire que, est-ce que vous expliquez après à des clients qu'ils demanderaient ce qu'ils ont mangé ? Est-ce que parfois les gens vous demandent ce qu'ils mangent ou demandent des précisions sur ce qu'ils mangent ?
Ouais, demandent des précisions pour savoir souvent le chemin créatif ou savoir. Ils sont toujours un peu en train de me dire, mais comment vous faites ou vous allez chercher ça ?
C'est la question qu'on se pose. Je vous la poserai tout à l'heure, celle-là.
Ouais, à mon psy ou à ma femme. Je parlerai parce que moi, je ne dors pas beaucoup. Je suis insomniaque. Voilà, c'est souvent les questions qui vont réellement poser. Après, ce qui revient, ça va être aussi le fait qu'on trouve quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Je pense qu'il n'y a pas de spécimen, il n'y a pas de copier-coller ou il n'y a pas de copier à ranger. Donc ça, c'est inévitable du fait que moi, je fais ce que je suis. Donc si je fais ce que je suis, j'ai réussi aujourd'hui à avoir appris, à décloisonner ce que j'ai appris et pour écrire ce que je suis, en fait, pour faire ce que je suis. Donc ça, c'est vraiment une liberté intellectuelle et incroyable à laquelle quitte un épanouissement, on va dire, personnel fort. Et qui permet aussi de faire comme une espèce de don de soi au gourmet, au gourmand.
Mais le fait qu'il n'y ait pas de menu, qu'on ne puisse pas choisir les plats, ouais. Ça part de quelle envie, de quel besoin pour surprendre les gens?
Non, justement, parce que souvent, lorsqu'on parle, aucune volonté de ma part de vouloir surprendre ou aucune volonté de vouloir dire quoi que ce soit. Non, c'est vraiment de se dire, à un moment donné, voilà, moi j'ai monté cet établissement à clé en main en imaginant que je passais un moment avec ma femme. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir un clé en main, je vais avoir les meilleurs produits du moment, que le chef sait faire, et sans avoir les contraintes de choisir un produit ou de se dire à un moment donné, je vais me diriger sur un produit que j'ai l'habitude de manger. Et souvent, les gens découvrent des produits qui sont déjà à portée de main, qui sont sur le pourtour méditerranéen ou qui sont même quand ils vont en randonnée. Des gens mangent du poisson qu'ils n'avaient pas mangé depuis 4-5 ans. Des fois, il y a des gens qui me disent, monsieur, grâce à vous, j'ai découvert l'huître. Bah écoutez, j'en suis heureux. Des gens qui m'ont dit, écoutez, c'est formidable, je n'aurais jamais pensé manger autant de légumes, je mange jamais de légumes, des végétaux, donc voilà, c'est super, c'est assez incroyable, mais c'est surtout le fait de se dire aux gens, voilà, on vient découvrir des produits, on n'a pas de point d'ancrage, et on se dit, tout simplement, on se laisse guider par la main et faisons confiance. Essayons de faire confiance, c'est un contrat de confiance.
Oui, mais c'est pas seulement des produits, Alexandra Madia. C'est aussi une façon de les cuisiner. On va en parler juste après la madeleine de Natacha Triou. C'est un autoportrait que vous nous proposez quand vous...
Non, je pense que c'est juste...
C'est un peu de vous donner.
Ah bah forcément, c'est ce que je suis. Donc je pense que c'est le moment, quoi. C'est
la cuisine du moment.
La cuisine du moment. Je dirais la cuisine de l'instant T. Qui est vraiment plus important, c'est même plus une cuisine de saison, c'est une cuisine de l'instant T. Donc ça, c'est encore plus vivant et plus excitant, dirais-je.
Ah ben, nous aussi, à la radio, on l'instant T, et cet instant, c'est l'heure de la madeleine de Natacha Triou. On se retrouve juste après la madeleine.
Il y a la sole, il y a le maquereau, il y a le merlan.
Regardez les merlans, un peu petits, vous voulez faire la sole.
1 kilo.
Allez, on profite, qui en veut.
Alors, Natacha Triou, vous nous avez rejoint à Marseille. Qui donc avez-vous rencontré ?
J'ai rencontré une personnalité phare de la cité phocéenne, Masha Makeyev. Depuis 2011, la metteur en scène et la directrice du Théâtre National de la Criée. Elle a grandi à Marseille, elle s'est formée au conservatoire local. Mais pour sa madeleine, pas de bouillabaisse, pas d'anchoyade, pas de panisse, ni de chichi frégi. Masha Makeyev se souvient de son grand-père russe et d'une spécialité bien à lui.
Alors là, c'est pas la mienne de madeleine, c'est la madeleine de mon grand-père qui était devenu un vieux russe blanc, un officier du tsar, exilé, qui restait dans ses rêves avec des habitudes étranges, plein de rituels que j'adorais et qui étaient à la fois extrêmement rigides, mais j'avais conscience qu'il était d'un autre monde. Alors évidemment, il buvait beaucoup de thé, il mettait du sucre dans sa bouche, il buvait du thé. Pourtant, il avait une dentition de jeune homme, il était très soigné. Je l'aimais infiniment, cet homme-là. Et le soir, il mangeait des pâtes sucrées trop cuites. Et un jour, il a accepté que je les partage avec lui. C'était vraiment sa tocade à lui. Et donc, il m'a dit, Mashenka, viens. Et il a partagé ses pâtes trop cuites qui faisaient l'horreur de... C'était une horreur pour ma grand-mère qui regardait ça avec un certain mépris, comme ça, sans l'exprimer jamais, bien sûr. On ne parlait pas comme ça à l'époque. Un simple regard suffisait. Et il faut aimer profondément celui qui les a préparés pour pouvoir les avaler. Mais je vais vous faire un aveu. Il m'est arrivé quelquefois, dans des moments d'extrême chagrin, de me faire cuire des pâtes trop longtemps et de les manger très sucrées. Ah, c'est assez inqualifiable. Je pense que un être normal, au fond, dans la norme, ne peut pas avaler ça. C'est gluant, c'est trop sucré. Mais en même temps, je vous assure, ça fait du bien à l'âme. Et voilà, dans cet appartement à Lyon, assez sombre, étonnant, comme un radeau d'un petit bout de Russie qui n'existait plus, qui était resté, il y avait ce vieux monsieur à l'allure très distinguée, que j'aimais infiniment, assez mystérieux, qui ressemblait plus du tout aux hommes que je voyais dans la rue, qui étaient tout à fait étranges, et qui se nourrissaient de pâtes très sucrées le soir. Mais il faisait ça comme si c'était un rituel extraordinaire, comme s'il avait été un prince. Et ça, j'aimais beaucoup ça. Ça me rappelle que quelquefois, même dans sa propre vie, on peut être en exil. Et c'était peut-être une façon extrêmement élégante de dire qu'une vie devenue très très modeste peut être aussi tout à fait princière.
Merci Natacha Triou pour cette madeleine de Masha Makeyev, marseillaise aussi comme nous, aujourd'hui pour ces bonnes choses avec le chef Alexandre Madia. Il y a beaucoup de saveurs d'enfance hein, dans votre cuisine, Alexandre Madia. Si je vous demandais quelle serait votre madeleine, est-ce que c'est une madeleine qui viendrait plutôt de l'île de Ré de votre grand-père ou c'est ce que vous avez gardé du Congo et les épices, les saveurs, que sais-je ?
Bon, je pense que ça serait d'avoir mon grand-père au-dessus des gorges de Diosso avec ma grand-mère. Faire un pique-nique avec mes enfants à l'heure actuelle, je pense que ça serait ça ma madeleine, et de voir ce fameux coucher de soleil avec cet ocre Les gorges de Diosso, c'est à Pointe-Noire, c'est ce qu'on appelle loin de la pointe indienne. C'est vraiment très très sauvage. Il y a un ocre incroyable avec le. En fait, c'est de la terre battue, c'est une gorge de terre battue, et avec cette réverbération de l'eau, ça devient tout rouge au coucher du soleil.
C'est une couleur, c'est un souvenir qui est celui d'un moment, c'est donc une émotion. Il n'est pas très gustatif comme souvenir, comme Madeleine, dites-donc.
Ah non, bah si je vous donne... Si je vous donne
la Madeleine, elle est gustative quand même, Alexandre.
Oui, bien sûr, parce que si je vous donne la Madeleine, c'est simple, ça va être du pain avec de la banane et des cacahuètes.
Là, on s'approche de votre cuisine. Ah,
s'approche déjà des traceurs. C'est le pain, alors, de préférence, un pain avec une croûte très dense, très noire, presque camfré, avec des cacahuètes écrasées, avec de la banane. Moi, j'aime cette matière, cette texture, qui me rappelle beaucoup de souvenirs, en fait. Qui me rappelle aussi des mélanges de moments passés qui n'ont pas forcément été forcément très faciles. Mais en même temps, c'est ce sentiment qui vous rappelle toujours qui vous êtes et d'où vous venez. Et je pense que ça, c'est important.
Et on le retrouve donc, ça, tout ça, dans votre cuisine, même si on n'en connaît pas les tenants et les aboutissants. On retrouve des mélanges, des associations, alors de textures, du croustillant et du fondant, et puis évidemment des saveurs. Alors, on va prendre quelques exemples de vos plats signatures. L'anguille fumée au chocolat, les œufs de saumon dans du lait fumé parsemé de noisettes torréfiées, et puis l'association framboise Harissa. Vous nous donneriez quelques clés de compréhension de ces associations?
Anguille fumée chocolat, c'était très simplement, c'est comment une bouchée, vous pouvez synthétiser votre cuisine. C'est un exercice très difficile. Vous dire, comment vous pourriez donner votre cuisine en un seul plat, une seule bouchée?
Oui, parce que c'est une bouchée, en l'occurrence.
Voilà. Et donc, je me suis dit, quelle question, un peu, comme je dis, mais pourquoi on me pose cette question? Et puis finalement, je me suis prêté à l'exercice tout seul après. J'ai essayé de synthétiser cette bouchée et de se dire, à un moment donné, qu'il puisse être un traceur important du début du voyage. Et donc, du coup, voilà, on est parti sur cette anguille particulière.
Anguille fumée chocolat, c'est assez audacieux.
Non, je dirais c'est simple. Vous avez le chocolat quelque peu métallique qui va prolonger cette salinité de l'anguille avec cette texture derrière, comme une bouchée souple, une souplesse. Voilà, j'aime bien ce contraste de texture. Puis en plus visuel, parce qu'il est un peu noir, il peut paraître rude, alors qu'en fait, il est souple, soyeux. Après, framboise harissa, c'est un compagnon fidèle qui m'accompagne depuis plus de 12 ans, 13 ans, qui a toujours été avec moi, qui a évolué. Pourquoi? Parce qu'au départ, la framboise harissa était quelque chose, était un condiment que je mettais sur mes assiettes quand j'arrivais pas à trouver l'équilibre. Comme ça, je me suis dit, bon voilà, il est là, il va me rassurer en fait. C'était une histoire un peu folle, ça. Et donc, j'aimais bien ce contraste parce qu'il y avait un deux temps. Il y avait le fruit et après les épices. Et du coup, je l'ai retravaillé après derrière, on l'a retravaillé en sorbet. Donc voilà, il était assez un compagnon d'armes.
Les épices accompagnent.
Les
relevés, votre cuisine est assez relevée.
C'est ce qu'on dit. Je m'en rends pas trop compte.
C'est ce qu'on dit, vous le goûtez pas?
Ben si, mais moi, pour moi, c'est pas relevé. Pour moi, c'est normal, je dirais.
Être relevé et normal,
Donc, c'est sûr qu'elle est marquée, je dirais, elle est marquée. On a affiné le trait tout en appuyant. Et ça fait, là aussi, les épices sont un traceur indélébile de ce que l'on est. L'Afrique, le Congo, il est là, il est dans l'ADN. Donc, on a à peu près 200-210 épices.
Ça marche avec le locavore, ça?
Pas tout, mais effectivement, on a des choses d'avoir comme Saladin, des gens qui sont à Noailles, justement, là, qui nous trouvent des pépites, comme le Massy, tout ça. On arrive à trouver des poivres sympas dans le coin, de plus en plus. Après, on peut avoir les épices aussi, vous savez, par le travail des feuilles séchées, mélangées, avec justement une acidité, qui là, on va créer une épice, enfin, plus ou moins une pointe de goût un peu différente, et qui rentre dans la formation intégrale de notre menu. Qui va s'apparenter, par exemple, à de la réglisse, mais ce n'est pas de la réglisse à la base. Donc ça, c'est intéressant. C'est tout un travail qu'on a là d'ouverture de portes. Ces portes d'assaisonnement différentes qui permettent des cuisines empiriques et qui permettent, justement, d'avancer tout doucement sans forcément avoir une saturation dans le goût. Et moi, ça me parle. Comme une feuille séchée, une feuille de kombawa séchée, puis torréfiée, qu'on va tremper dans un lait d'amande. Vous allez voir, il y a vraiment un côté laiteux, évidemment, mais un côté laiteux surgissant. Cette puissance, on dirait presque de la laitance, qui est formidable. Et là, on se demande ce que c'est. Mais voilà, ça m'importe beaucoup. Ça donne des portes d'assaisonnement incroyables. J'aime cette profondeur d'écriture, ça m'anime.
Et qui, on voit. Et à vrai dire, c'est vrai que de toute façon, quand on voyage avec votre cuisine, Alexandre Mazia, c'est vraiment un festival de saveurs. C'est la danse des papilles, c'est ce qu'on s'est dit quand on a goûté à votre cuisine. Il paraît qu'il y a des gens qui ont pleuré après avoir mangé chez vous, parce qu'ils avaient eu une émotion tellement forte que ben voilà, ça leur faisait monter les larmes aux yeux. Qu'est-ce que vous cherchez à procurer chez vos clients? Quel type d'émotion? Est-ce que vous cherchez, je sais pas, une sorte de révolution du palais? Est-ce que vous cherchez plutôt à les provoquer, à les bousculer, à les choyer?
Non, j'ai pas de...
Rien du tout.
J'ai pas de volonté vraiment de plan stratégique, passé, de ce que je veux faire. Non, c'est juste que j'essaye que les gens passent un bon moment à la table, parce que les gens qui viennent de loin maintenant, donc ça met la pression quand je vois des taxis. Alors ça fait rigoler les gens, parce qu'à Paris il y a des taxis partout, mais moi quand je vois les taxis qui arrivent chez moi, ça met la pression. Je dis, oh, les gens ont pris quand même le taxi pour venir chez moi. Alors ça fait rigoler tout le monde quand je dis ça. Ça me fait rigoler. Je me rappelle à mes collaborateurs, vous rendez compte, les gens viennent en taxi ici. Alors ils disent, mais chef, quand même. Dis, bah, quand. Donc moi c'est toujours ces regards un peu hein, quelque part qui peuvent paraître juvéniles, mais c'est ça. Et donc du coup je surtout pas, il y a toujours cette peur pas palpable ou impalpable, peut-être dans le visage où les gens se disent, mais comme c'est ouvert, des fois ils disent, mais le chef fait la gueule ou quoi? Non, pas du tout, le chef est concentré, le chef c'est quand même quelque chose de profond. Donc parfois il y a une espèce de transe inexplicable où là on a un rapport un peu, on va dire, bizarre au produit, et on a besoin de le palper, de le toucher. Et c'est vrai que là vous, en fait, vous voyez les gens sans les voir et vous êtes dans votre monde. Vous essayez de donner le meilleur de vous-même et sans aucune prétention ni quoi que ce soit. Alors après, c'est vrai que ça peut être parfois bouleversant, mais surtout gênant quand il y a des gens qui ont des larmes aux yeux, des émotions. Ouais, moi ça me gêne. Alors des fois, je sais pas quoi répondre. Je suis un peu. Les gens doivent se dire, mais le mec, il est barjot ou quoi? Il voit pas. Et je dis, ben non, mais je suis gêné à la fois. Donc je mets dans ma coquille, je suis un peu penaud et les gens mais ça se passe bien de manière générale. C'est vraiment fort. Et puis des fois, souvent, ce que je dis, c'est hier par exemple, on a eu un chef qui est venu nous voir et du coup, il m'a traduit des émotions qui étaient tellement fortes que je lui ai dit, mais si tu pouvais traduire à la cuisine. Il est rentré en cuisine et du coup, tous mes cuisiniers ont pleuré quoi. Et l'émotion était tellement forte de ce cuisinier qui Olivier Belin est venu et a raconté son ressenti du repas. Même moi, j'en suis un peu bouleversé. Et du coup, il a bouleversé tout le monde.
Et c'est l'équipe qui s'est mise à pleurer.
Eh ouais, on est très exacerbé ici en termes de pression.
À Marseille. Et c'est tous les sens, hein, de toute façon, qui sont en éveil avec votre cuisine, Alexandre Mazia. Et il se trouve que vous êtes aussi un amateur d'art. Vous aimez la peinture de Miro, vous aimez la photo de Depardon, vous aimez les noirs de Soulages. Est-ce que vous vous en inspirez? Est-ce que l'art nourrit votre travail?
Oui, je pense, ouais, indirectement. Ouais. Moi, j'ai découvert la photo grâce à ma femme, grâce à Anne, qui m'a fait découvrir la photo, ces lumières un peu fantastiques, ces profondeurs parfois du noir et du blanc, c'est surtout le noir et le blanc, le fait des photos fantastiques en noir et blanc. Et puis après, moi, j'ai le fait par le voyage, j'ai pu voir quand même de nombreux musées dans le monde, donc ce qui a nourri aussi l'œil, bah, moi, ça a été inspirant. Ouais, ça m'inspire et puis surtout, ça me lave l'esprit, quoi, ça me lave la tête. Quoi. Quand je vais au musée Thyssen, par exemple, ça me lave la tête. Quoi. Je rentre, j'oublie tout, je regarde, une espèce de d'imbibation, je me sens bien, je me sens quelque part et nulle part à la fois, et ça me nourrit. Ouais. Et puis après, il y a des choses comme ça qui ressurgissent après, et à un moment donné, je me rends compte seulement en se notant. Des fois, je vais créer une assiette, un machin, et puis des fois, il y a un média qui va dire, mais chef, ça vient d'où? Au départ, je dis, bah écoute, on goûte, je la fais goûter, puis après, j'essaie de me poser la question, je dis, mais où ça aurait pu venir ça? Et après, je réfléchis. Et puis après, comme je ne dors pas beaucoup la nuit, je dis, ah oui, ça, c'est certainement ça. Donc du coup, j'essaie de réussir à trouver l'endroit, peut-être, ou le moment qui m'a permis de déclencher ce que j'ai pu faire ou créer le lendemain. Ou des fois, ça peut être un mois, deux mois, six mois, huit mois plus tard. Ou des fois, on va commencer quelque chose, je ne le finis pas. Et puis, il y a quelque chose qu'on a commencé qui va être là. Et je vais dire, mais là, je me rappelle, on avait dit ça, oui, c'était ça plus ça. Et puis du coup, c'est ce qui permettait d'avoir la clé pour pouvoir trouver l'équilibre du mets que je voulais donner.
Donc la clé chez vous, c'est l'insomnie, c'est la nuit. Voilà, la clé c'est ne pas dormir la nuit, c'est là que vous trouvez vos recettes. On voulait vous faire un petit cadeau pour terminer, parce que on sait que vous aimez aussi la musique, que vous pouvez travailler en musique. D'ailleurs, dans le restaurant, de temps en temps, on entend un peu de Ben Harper que vous aimez beaucoup.
Oui, Ben Harper,
je vais vous laisser choisir. On avait envie, puisque vous avez parlé de vos grands-parents et des souvenirs d'enfance, de vous passer Mireille et ce petit chemin.
Ah, le petit chemin qui est là.
Ou Ben Harper, qu'est-ce que vous préférez?
Ah, franchement, sincèrement, je préfère Mireille.
Eh ben alors, Mireille, merci beaucoup, Alexandre Mazia.
Merci à vous.
Ce petit chemin qui sent la noisette, oh, ce petit chemin n'a ni queue ni tête. On le voit qui fait trois petits tours dans le bois. Puis il part au hasard en flânant comme un lézard.
Les bonnes choses se poursuivent en réécouté, en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Aïgoui Chichkoyan, Stéphanie Villeneuve, Natacha Triou, Jean-Christophe Francis et notre technicienne du jour, Sandrine Malon, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, vous retrouverez le journal suivi de Signes des Temps par Marc Weitzman.
Dans ce petit chemin qui sent la noisette, oh, ce petit chemin m'a tourné la tête, t'as posé trois baisers sur mes cheveux frisés, et puis sur ma figure toute barbouillée de mûres, pour nous observer des milliers de bêtes s'étaient installées par-dessus nos têtes. Mais un lièvre au passage nous a dit, soyez sage, ne crains rien, prends ma main dans ce petit chemin.